choix d'une telle cible relève d'une forme de perversité, mais, comme toujours lorsqu'il s'agit d'Alexandre, c'est plutôt l'hypothèse de la bêtise qu'il convient de privilégier, d'autant qu'une minutieuse analyse des faits la corrobore en tout point. Il avait simplement dû se dire dans un éclair de génie que sa connaissance des lieux lui faciliterait la tâche et que, de surcroît, la faible distance à parcourir pour trouver refuge chez lui une fois le butin obtenu lui permettrait d'échapper aux recherches des forces de l'ordre. Pensant certainement qu'un ultime repérage était nécessaire, il se présenta donc à la boutique aux heures notoirement creuses d'ouverture de l'après-midi, salua chaleureusement le vieux propriétaire, fit mine de s'intéresser à un arrivage d'avocats péruviens, acheta finalement une viennoiserie et un soda, prit congé de son air le plus affable, et revint, moins de 5 minutes plus tard, exactement dans la même tenue, à ceci près qu'il l'avait maintenant enrichi d'une cagoule et d'un pistolet d'alarme. Il exigea du vieux propriétaire qu'il lui remette le contenu de la caisse, et sans même lui laisser le temps de s'exécuter, il lui balança un coup de crosse préventif dans la mâchoire. 2 heures plus tard, Alexandre était placé en garde à vue. En plus du témoignage éploré mais formel de la victime, les gendarmes disposaient de tous les éléments matériels nécessaires qu'ils avaient retrouvés dans la chambre du mis en cause, subtilement dissimulés dans son tiroir à sous-vêtements. La cagoule, le pistolet et le montant exact de la recette manquante, à savoir 83,72 €. Cette somme laissa tout le monde perplexe, à commencer par les gendarmes, car Alexandre ne manquait de rien, si l'on veut bien me pardonner ce recours massif à l'euphémisme. Ses ressources en argent de poche étaient illimitées. Pour ses 14 ans, son père lui avait offert une de ces immondes petites voitures sans permis, bruyantes et hors de prix, dans laquelle Alexandre faisait depuis lors le tour de la ville en se pavanant, l'avant-bras gauche pendant négligemment le long de la portière par la fenêtre ouverte afin que chacun pût contempler la Rolex offerte pour ses 16 ans, ou le cadeau de son 17e anniversaire, une chevalière en or gravée à ses initiales. Il venait à peine d'avoir 18 ans, car il avait bien évidemment attendu d'être majeur pour faire ses premiers pas sur la voie du crime, et son père lui avait déjà commandé une Audi A1, toute option, qui lui aurait été remise le jour même de son anniversaire, avant même qu'il ait passé son permis, n'eût été un fâcheux retard de livraison. Bref, il aurait tout aussi bien pu être accro au poker ou au crack, qu'il n'aurait pas eu besoin de braquer quoi que ce soit, a fortiori, une épicerie de quartier. Son père se serait fait un devoir de financer ses addictions. À l'issue de sa garde à vue, Alexandre fut mis en examen et passa une semaine en prison, après quoi le juge décida de le libérer pour le placer sous surveillance électronique afin qu'il puisse poursuivre ses études en attendant son procès. Philippe commença par administrer à son fils une grotesque leçon de morale dans laquelle il ressortait qu'on pouvait choisir de se lancer dans une carrière de voyou, il fallait de tout pour faire un monde, tout en conservant des principes et une attitude chevaleresque. En s'abstenant, par exemple, de défoncer à coups de crosse la gueule de vieillards innocents. Alors que Catalina soutenait contre toute vraisemblance que le pauvre garçon avait certainement fait un faux mouvement. Je voyais bien que Philippe avait du mal à digérer cette histoire de coups de crosse qui l'empêchait d'offrir son absolution inconditionnelle. Malgré tous ses défauts, son arrogance et son absence de scrupules, il n'était pas méchant, et jamais il n'aurait fait de mal à qui que ce soit gratuitement et de sang-froid comme il craignait que son fils en fût capable. À mon sens, c'était lui faire trop d'honneur. Alexandre n'était pas plus sadique que pervers, il avait simplement joué le rôle du caïd qu'il s'était attribué dans le film navrant, écrit, produit et réalisé par ses soins. À ceci près bien sûr que ce n'était pas un film, comme il sembla en prendre conscience en allant accompagné de son père présenter des excuses à sa victime. Le pauvre vieux portait encore des traces de contusion sur le côté gauche du visage, mais ce n'est pas de cela qu'il souffrait le plus. « Je ne comprends pas, » disait-il. « Quel mal t'ai-je fait ?» Alexandre, comme soudain dégrisé, s'était effondré en demandant pardon avec des accents de sincérité indubitable qui avaient ému son père. « Je vais quand même t'avoir à l'œil, » le prévint Philippe. « Fini la belle vie. » Cet été, tu travailleras au restaurant avec les jumeaux, au moins 3 soirs par semaine, et ton Audi, quand on voudra bien me la livrer, je te la confisque. Si tu la veux, tu me décroches ton bac. Et c'est ainsi que je me retrouve, au mois de juin suivant, tout seul avec Alexandre dans une salle de classe à attendre que la sonnerie nous libère tous les deux.